Bonjour, dans cet audio, nous allons partager ensemble, nous allons découvrir ensemble trois cas de transformation personnelle grâce à l'effet placebo. Ce sont en fait des cas qui sont issus du séminaire de Joe Dispenza, qui ont été suivis personnellement par le docteur Joe Dispenza. Et on va commencer avec le cas de Laurie. Donc ça va être un petit peu long, mais c'est passionnant, ça vous montre que même dans les cas les plus graves, parce qu'on va voir ces trois cas assez graves, eh bien l'espoir est permis. Alors désolé s'il y a un petit peu de bruit autour de moi. Je pense que j'ai testé, le son est très bon, mais vous allez voir un petit bruit de fond, mais j'espère que ça ne vous dérange pas. On va commencer avec le cas de Laurie. C'est une femme qui a, à 19 ans, eu un diagnostic qui lui a informé qu'elle était atteinte d'une rare maladie osseuse dégénérative. Donc vous voyez, ça commence fort, c'est vraiment quelque chose de grave. Ça s'appelle cette maladie la dysplaxie fibreuse polyostotique. C'est une maladie en fait débilitante qui fait que le corps remplace les os normaux par un tissu fibreux de moins bonne qualité. Ce qui fait que la matrice protéique qui soutient le squelette devient anormalement fragile et irrégulière. Ça se traduit comment ? Bien, ça se traduit par en fait, le fait que les os gonflent, s'affaiblissent et puis se fracturent. Et donc ça peut affecter n'importe quelle partie du squelette. Et dans le cas de Laurie, c'était manifesté dans son fémur droit, dans son tibia droit et dans certains os de son pied droit. Et les médecins qu'elle a consultés, elle en a consulté vraiment beaucoup, lui ont tous informé que cette maladie était incurable. C'est une maladie génétique. Et on ne peut vraiment rien faire contre ça. Alors dans ce cas, le cas de spécifique de Laurie, eh bien elle a passé une année entière à boiter avant de savoir ça. Elle avait très mal, elle souffrait beaucoup, elle pensait qu'il y avait une fracture. Et en fait, elle avait une fracture, mais elle ne l'a pas su tout de suite. Donc elle a marché comme ça pendant un certain temps. Et elle a été choquée d'apprendre qu'elle s'était cassée un os parce qu'en fait, elle n'avait souffert d'aucun traumatisme particulier. Donc elle avait un pied anatomiquement plus grand que l'autre. Et donc, malgré ça, elle avait quand même vécu dans son enfance une jeunesse relativement active. Elle s'était livrée à diverses activités telles que la course à pied, la danse, la pratique de tennis. Et donc, pour elle, commencer à boiter, ça a été vraiment très, très difficile. Elle a été voir plusieurs médecins, après ses diagnostics, ils lui ont tous confirmé la même chose. Et ces médecins lui ont dit qu'elle était fragile, elle est extrêmement vulnérable. Et ils lui ont conseillé de marcher exclusivement avec des béquilles jusqu'à ce qu'elle puisse se faire opérer, elle puisse avoir une intervention chirurgicale qui consiste en fait à pratiquer une greffe osseuse suivie de l'implantation d'un clou pour le fémur. Et donc évidemment, vous imaginez qu'elle et sa mère, ils ont pleuré de nombreuses heures, c'était vraiment un cauchemar. Et elle a commencé à être très limitée dans sa vie puisque... Elle a dû arrêter son stage, elle a dû commencer à éviter, à faire attention. Donc elle a suivi à la lettre les recommandations du chirurgien, elle a utilisé constamment ses béquilles. Et elle a passé sa vie à aller de cabinet médical en cabinet médical parce qu'il cherchait vraiment pour être sûr que ce diagnostic était le bon. Et chaque fois, c'était confirmé. Le dernier médecin, lui, par contre, il a été encore plus déprimant. Il lui a dit qu'en fait, la chirurgie donc ils ont vu 10 chirurgiens en fait, hein, que la chirurgie qui était recommandée par ses collègues ne lui serait d'aucune utilité. Et selon ce médecin, l'implantation d'un clou pour le fémur aurait comme effet de renforcer l'os malade uniquement dans sa partie la plus faible, ce qui entraînerait des fractures additionnelles dans les zones voisines les plus vulnérables, c'est-à-dire au-dessus et en dessous du clou. Donc elle est restée à ce moment-là complètement immobile chez elle, par crainte de se briser les os. Elle s'est sentie petite, diminuée, fragile. Et elle, vous imaginez, elle commence à faire des crises d'anxiété, elle s'apitoyait sur son sort. Et elle est malgré tout rentrée à l'université et elle essayait effectivement de faire preuve d'abnégation et avait une bonne capacité à masquer son désarroi sous le couvert d'une dépression sévère, une dépression clinique sévère. Alors quand on a beaucoup de cas de maladie, il y a toujours une origine psychologique aussi. C'est pas par hasard, c'est à tel endroit du corps. Et dans le cas de Laurie, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'aussi loin qu'elle s'en souvienne, son père était quelqu'un d'un violent. C'était un homme violent. Et même quand il était adulte, il devait faire face à sa colère de manière imprévisible. Et il n'hésitait pas à montrer les poings dans les moments les plus inattendus.
Mesdames et messieurs.
Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois dans son enfance, elle était tout le temps dans un état de constante vigilance, constante anxiété, avec la peur de la violence. Et c'est... C'est lourd de conséquences parce que, comme on avait vu dans un autre audio, c'est qu'en fait, nous avons des ondes cérébrales qui sont alpha, theta, theta. On avait vu ça ensemble. Et en fait, durant les 12 premières années, les enfants évoluent progressivement vers un état theta. Donc, les nouveaux-nés sont d'abord dans un état delta. Et puis après, les premières années, ils vont aller vers un état theta, puis ensuite vers un état alpha, avant d'atteindre l'état theta dans lequel ils vont passer l'essentiel de leur vie adulte. Et en fait, rappelez-vous que les ondes θ et les ondes alpha sont des états où les ondes cérébrales sont hautement suggestibles. Donc en fait, les enfants, comme on le sait, n'ont pas un esprit analytique qui leur permet d'évaluer ce qui leur arrive, du fait que toutes les informations qu'ils absorbent à partir de l'expérience sont directement encodées dans leur esprit subconscient. Donc ils sont très suggestibles, et donc ils sentent émotionnellement, ils sont très vite altérés, et ça va vraiment créer les premières racines de l'arbre, si vous voulez, ça va créer les premiers conditionnements, les premières mémoires associatives qui, dans le calorie, sont reliées à de la violence. Et une des explications avancées par le docteur Joe Dispenza, c'est que quand Laurie a reçu son diagnostic de dyspraxie fibreuse, sa mère a proclamé devant toute la famille que maintenant elle devait être considérée comme officiellement fragile, donc ce qui présentait l'avantage de la soustraire à la violence physique de son père. Malgré tout, évidemment, celui-là continuait à être agressif verbalement, émotionnellement, ce qui ne l'a pas du tout protégé finalement de la violence, sauf physique bien sûr. Et donc on voit que c'est un sentiment de sécurité qui est grâce à la maladie qui arrive, mais en fait c'est un sentiment assez pervers, puisqu'elle est dans une situation de survie permanente, elle est dans l'anxiété permanente, elle est dans une sorte de dépression permanente, tous ses rêves ont volé en éclats, elle doit toujours avoir un traitement spécial, elle doit tout le temps se déplacer avec des béquilles, dès qu'elle se déplace dans un bus ou dans un métro, ben, il n'y a pas de place pour elle, ou elle doit demander aux gens de s'occuper d'elle pour avoir aussi un tarif spécial, parce qu'il y a des tarifs spéciaux pour les personnes handicapées. Et donc, elle a commencé à développer une autre identité. Et elle a commencé même à en jouer et à en voir des avantages. Par exemple, dans un restaurant, elle peut obtenir une place plus vite. Et donc, en fait, même si elle en souffrait, elle s'en plaignait, elle avait aussi on appelle ça des bénéfices secondaires en psychologie, pour en fait, trouver en fait, des bénéfices à sa maladie. Par exemple, en ayant une première place, en ayant passant devant tout le monde, ce genre de choses. Et en étant en plainte, donc en fait, on lui permet finalement d'avoir des choses plus facilement, ce qui était un avantage secondaire pour elle. Et ce qui s'est passé aussi dans le cas de Laurie, c'est que quand l'être humain c'est complexe, elle avait ça, et en même temps, elle a essayé toujours de... En comprenant qu'elle était malade et en faisant de cette maladie... Excusez-moi, j'ai été coupé par un appel. J'ai mis mon téléphone maintenant sur mode d'avion, comme ça je ne serai plus coupé. Donc ce que je disais, c'est que Laurie, malgré le fait qu'elle trouvait des avantages, de manière inconsciente sans doute, des bénéfices secondaires à sa maladie, le fait qu'on lui facilitait les choses, qu'elle avait des premières places, qu'elle ne devait pas attendre, qu'on faisait attention, qu'on l'aménageait... Il y avait aussi un autre côté d'elle où elle voulait se battre contre cette maladie et malgré tout, elle a pris la décision de devenir la première culturiste handicapée. Et donc, elle a repris le sport avec une obsession et elle a essayé de trouver des manières créatives pour soulever des poids. Ce qui s'est passé dans son cas, c'est qu'en fait, ses efforts ont produit l'effet inverse. Au lieu de se sentir mieux, elle commençait à se sentir terriblement mal. Elle avait très mal physiquement, elle a eu des douleurs qui se sont aggravées. Et puis, comme la plupart des patients qui sont atteints de dyspraxie fibreuse polyostotique, elle a commencé à développer une scoliose, ce qui l'a fait souffrir de manière quotidienne d'intenses douleurs au dos. Et donc, elle a commencé également à développer de l'arthrite dans sa colonne vertébrale et partout ailleurs. Et au fil du temps, même après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle allait souvent mener finalement une vie très sédentaire. Elle allait au travail, elle allait à sa maison, c'était très simple. Elle n'avait pas beaucoup d'amis finalement. Elle avait beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété, la dépression constante. Et elle enviait beaucoup les autres qui pouvaient évidemment être en bonne santé. Elle a perdu beaucoup d'amis. Et elle utilisait constamment une canne pour se déplacer après avoir 20 ans. Et elle avait continuellement mal. Et... Elle expérimentait également de dangereuses microfractures. Donc ses os étaient si faibles que des fractures de stress apparaissaient sous les fissures microscopiques et se connectaient à d'autres zones osseuses affaiblies pour former des fractures encore plus grandes. Et donc c'est comme ça que Laurie a vieilli prématurément. Et lorsqu'elle avait eu 30 ans, elle a commencé à avoir plus de problèmes de dos que son père qui avait 72 ans. Elle restait parfois alitée pendant des jours entiers. Elle manquait tellement de semaines de travail qu'elle a été contrainte de quitter chaque fois ses emplois. Elle a dû interrompre ses études supérieures car l'école où elle s'est inscrite ne disposait pas d'un ascenseur approprié. Et elle se sentait donc extrêmement vulnérable, extrêmement fragile, extrêmement faible. Et plus elle se sentait faible et vulnérable, plus elle devenait faible et vulnérable. et continuait à expérimenter chaque fois de nouvelles fractures dans ses os, ce qui renforçait sa croyance qu'elle était fragile, ce qui avait pour effet de, donc, de réaffirmer son identité de personne faible, de personne fragile. Et elle était dans la peur constante d'avoir de nouvelles fractures. Elle a essayé d'ajuster son régime, elle a pris plein de vitamines, des différents suppléments, des médicaments qui sont destinés à renforcer les os, mais ça ne semblait pas arrêter le cycle de fractures. Et donc, elle pouvait se fracturer un os simplement en montant un escalier ou en descendant d'un trottoir. Et donc, c'était vraiment comme un, enfin, vous imaginez, comme un très très long cauchemar. Ce qui était encore très dur pour elle, c'est que, ironiquement, lorsqu'elle ne boitait pas ou lorsqu'elle ne se servait pas de ses béquilles, eh bien, elle paraissait en parfaite santé. Et la plupart des gens supposaient que sa canne était une sorte d'accessoire excentrique et ne croyaient pas vraiment, parce qu'on ne le voyait pas, qu'elle souffrait terriblement et qu'elle était atteinte d'une maladie débilitante. De sorte qu'elle avait parfois même difficile à avoir accès à ce traitement spécial dont elle avait besoin, qu'elle avait droit, ce qui était encore plus frustrant pour elle. Elle est donc, elle a essayé de s'efforcer de convaincre les gens qu'elle était vraiment malade, ce qui a encore renforcé son identité de personne malade. Et finalement, c'est paradoxal, la plupart des gens essayaient de cacher leur faiblesse et elle essayait au contraire de manifester les siennes, de montrer, de prouver qu'elle était fragile. Elle a donc dépensé beaucoup d'énergie pour essayer de faire ça, pour avoir cette attention particulière. Et son style de vie devenait finalement de plus en plus étroit dans ses déplacements, dans ce qu'elle pouvait faire, dans ce qu'elle pouvait accomplir sans courir le risque de se fracturer un os. Et de plus en plus, était dans la peur, sa dépression s'est aggravée et elle a essayé de travailler de nouveau, mais ça n'a pas marché, elle n'a pas pu conserver son emploi. Alors vous voyez que cette femme qui, de par le passé, quand elle était jeune, était quelqu'un de sportif, c'était une danseuse, une adepte de la course à pied, une culturiste de haut niveau. Elle était maintenant exclusivement limitée à des pratiques comme le yoga, pour entretenir sa forme physique. Et à la fin de la trentaine, même la pratique du yoga était devenue impossible. Ses seuls mouvements étaient c'était le fait de s'asseoir sur une chaise et se relever et pratiquer des exercices respiratoires vigoureux et d'agir dans la piscine. Elle a vu énormément de thérapeutes, de médecins, de guérisseurs, des thérapies par le son, des ostéopathes. Et au final, elle a toujours cherché finalement des solutions à l'extérieur d'elle-même. Je vous dis ça parce qu'au début, on a vu qu'une des causes, c'était sa peur de son père. C'était une des causes. Et elle a tout le temps cherché en fait des solutions à l'extérieur. Et chaque fois qu'elle allait voir des guérisseurs ou des médecins ou des ostéopathes, elle se sentait mieux, ce qui fait qu'elle se sentait de nouveau avec un peu plus d'espoir. Et puis, elle passait des nouvelles radiographies. Et là, évidemment, rien ne changeait. Elle se sentait de nouveau déprimée parce qu'elle voyait toujours que les mêmes résultats. Et c'était toujours le même résultat. C'était le même que les précédents. Et donc, elle pensait que ça continuerait. Et en fait, elle était chaque matin submergée par un sentiment d'effroi, convaincue qu'elle ne pourrait jamais faire face à cette cruauté du monde qui tombait sur elle. Alors elle a rencontré le docteur Joe Dispenza en 2009 après avoir vu ce documentaire et ses livres et elle a commencé à assister à un cours et ça l'a beaucoup marqué mais elle ne pensait même pas que c'était possible de guérir son corps, elle voulait juste travailler sur ses croyances, elle voulait se sentir mieux, être moins dépressive. Et c'est avec cet état d'esprit qu'elle a commencé le premier cours. Et pendant ce stage, parce qu'elle en a fait plusieurs, c'est son premier stage, et ce qu'elle a travaillé sur elle, c'est surtout d'arrêter de communiquer cette image de personne fragile. Et donc, elle a vraiment travaillé sur sa communication à l'extérieur d'elle. Et elle a commencé à travailler sur son futur, sur un nouveau futur où elle pouvait être plus heureuse, elle pouvait se sentir plus connectée, elle pouvait trouver un emploi et se trouver des meilleures relations. C'était vraiment ce genre d'objectif sur lequel elle travaillait. Donc elle a fait plusieurs ateliers du docteur John Dispenza, elle a continué à travailler sur elle, notamment avec modifier toutes ses pensées, modifier les mots qu'elle utilise pour ne plus avoir des mots négatifs, des mots de plainte, pour essayer de mettre un terme à ses vieux schémas destructeurs. Elle a continué la méditation également. Et en relisant chaque fois les notes du cours, comme je vous invite à écouter les audios régulièrement, elle a commencé à se sentir mieux. Elle a commencé à comprendre que tout ça était possible, qu'elle pouvait vraiment changer. Et elle répétait d'ailleurs le mot « changement » au moins 20 fois par jour. C'est un mot un peu comme un mantra qui qui lui évitait de retourner dans le passé, d'en retourner dans ses vieux schémas de pensée négative qu'il essayait quand même quotidiennement. J'imagine que vous avez eu sans doute le même souci, c'est on se concentre sur un nouveau futur, mais pendant la journée, on a des vieux schémas de pensée qui nous reviennent de manière automatique. Donc elle a commencé à écrire aussi ses nouvelles croyances, ses nouveaux objectifs. Elle a vraiment travaillé dur, elle a vraiment fait beaucoup de travail sur elle, avec beaucoup d'énergie. Et il lui a fallu, dans son cas, presque 2 ans pour commencer à ressentir réellement ses nouvelles pensées comme automatiques. Et pendant cette période d'attente, plutôt que de se sentir frustrée, elle se rappela tout le temps qu'elle avait... Il lui a fallu beaucoup de temps pour créer cette maladie à partir de son état émotionnel, dans son passé, et qu'en conséquence, il faudrait aussi pas mal de temps pour défaire cette création. Et elle s'est rappelée, ce qu'on a vu aussi ensemble, c'est qu'elle devrait passer par la mort biologique, neurologique et chimique, et même génétique, de son vieux soi, pour que le nouveau soi puisse émerger. Et tout ça, ça prend un certain temps. Donc au début, elle a accepté, c'est que son environnement extérieur... n'a pas changé et que même sa condition physique ne s'est pas améliorée, au contraire. Elle a même eu d'ailleurs des problèmes supplémentaires puisque son environnement a été dévasté par une inondation. Elle a eu pas mal d'autres incidents similaires et ça lui a causé des problèmes de santé. Et donc, chaque fois qu'elle essaie de méditer ou de s'entraîner à visualiser positivement, elle a l'impression qu'elle se racontait un mensonge. Vous avez peut-être déjà connu ça. Et dès qu'elle ouvrait les yeux, elle avait tous ses problèmes qu'elle devait gérer dans son environnement, dans son appartement. Et c'était effectivement très très dur pour elle de traverser cette fameuse rivière du changement. Et elle était heureusement chaque fois motivée, coachée, accompagnée par le Dr Joe Dispenza, qui l'encourageait à continuer. Et là, elle a fait quelque chose de très très chouette, qu'elle disait en fait, elle pensait en fait textuellement, c'est marqué, qu'importe la maladie, je me contenterai de vivre 1 heure par jour, derrière mes paupières closes, une réalité différente, où mon corps ne connaîtra plus la douleur, où j'aurai une maison tranquille et sûre, et des relations satisfaisantes et aimantes avec le monde extérieur, ainsi qu'avec mes amis et ma famille. Donc vous voyez ici la clé, c'est de dire qu'importe l'environnement qui ne change pas, qu'importe les douleurs qui ne changent pas, 1 heure par jour, je vais me concentrer sur cette autre réalité. Et au début de l'année 2012, alors qu'elle faisait un autre atelier avec Joe Dispenza, elle a commencé vraiment à changer physiquement. Elle a commencé à éprouver lors d'une méditation un désagrément, puis une libération. En fait, ce qui s'est passé, c'est que son corps a été secoué de tremblements, son visage s'est déformé, ses bras s'élevèrent dans les airs alors qu'elle faisait de son mieux pour rester assise sur sa chaise. Elle a ressenti émotionnellement une très grande joie. Elle a commencé à pleurer, elle a commencé à rire, il y a des sons qui sortaient de sa bouche. Et c'est comme si un tas de tensions sortaient de son corps, toutes les peurs et tout le contrôle qu'elle avait manifesté jusqu'alors pour préserver son intégrité se sont desserrés et elle a senti qu'elle n'était plus seule, qu'il se passait quelque chose, qu'elle était accompagnée d'une sorte de force. Et voilà ce qu'elle écrit. J'ai ressenti quelque chose, quelqu'un, une sorte de présence divine, cette conscience connaissait mon existence et se souciait de mon bien-être comme je l'avais cru précédemment. En fait, cette conscience m'avait prêté attention. Lorsque je m'en suis rendu compte, ce fut un formidable changement pour moi. Et c'est là qu'elle a commencé vraiment à se détendre et à décompresser. Et toute l'énergie qu'elle avait utilisée pour maintenir un contrôle de ses émotions a été libérée. Et elle a pu commencer à marcher, s'emboîter et sans s'appuyer sur sa canne. Et au lieu, comme d'habitude, d'être irritée, de froncer les sourcils, de grimacer de douleur, elle souriait, elle riait, elle semblait heureuse. Et donc, elle avait en fait transmuté sa peur en courage, sa frustration en patience, sa douleur en joie et sa faiblesse en force. Donc, elle a commencé vraiment à changer physiquement à l'intérieur et à l'extérieur, c'est-à-dire dans son corps. Elle s'est libérée en fait des émotions limitatives. Son corps a évolué beaucoup moins dans le passé et son corps s'est dirigé vers un nouvel avenir. Et elle avait fait une visite de routine chez un orthopédiste en 2012. Et cet orthopédiste lui a informé que les 2/3 de la fracture de son fémur, diagnostiquée alors qu'elle avait 19 ans, avait disparu. Donc cette fracture apparaissait sur la centaine de radiographies qu'elle avait faites jusqu'alors. Et selon cet orthopédiste, il n'y avait aucune explication à offrir. Mais il lui suggéra de commencer à utiliser une bicyclette stationnaire, une bicyclette d'intérieur, pendant 10 minutes et ce 2 fois par semaine. Et ça, ce conseil lui a fait un bien fou. C'est comme une douce musique à ses oreilles et elle est partie le cœur léger. Et tout son travail pour effectuer, pour traverser la rivière du changement a commencé à se révéler payant à partir de ce moment-là. C'est un peu comme si elle voyait maintenant les fruits de son travail. Et donc, chaque jour, elle faisait vraiment des efforts pour aller au-delà de son corps, de son environnement et du temps. Elle transcendait son ancienne personnalité qui était reliée à son présent et à son passé. Et elle essayait de passer au-delà de, cette réalité extérieure pour se concentrer sur son nouveau soi. Et donc, elle devait vraiment faire des efforts pour supplanter son esprit analytique, pour changer ses ondes cérébrales, pour devenir plus suggestible et continuer à se visualiser, à se reprogrammer. Et elle a commencé à croire, parce qu'elle voyait des résultats, que son esprit guérissait réellement son corps par le seul pouvoir de la pensée. Elle a vu dans les radios que la vieille fracture qui était connectée à son ancien soi était en train de guérir, parce qu'elle devenait véritablement quelqu'un d'autre. Comme elle ne pensait plus, elle n'agissait plus de la même manière, elle avait cessé d'activer les circuits cérébraux qui étaient connectés à son ancienne personnalité, elle a créé de nouveaux circuits cérébraux, et elle a conditionné son corps en fonction d'un nouvel esprit. Donc elle ne vivait plus dans le même passé, empreint des mêmes émotions. Durant sa méditation quotidienne, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle activait de nouveaux gènes, d'une nouvelle manière, en modifiant simplement son état d'être. Les gènes qu'elle activait fabriquaient de nouvelles protéines. On avait vu ça dans le cours. Ces protéines qui sont responsables de la guérison de fractures. Et elle avait aussi compris que ces cellules osseuses avaient besoin de recevoir le bon signal de son esprit, de façon à désactiver les gènes de la dysplasie fibreuse, tout en activant d'autres gènes, les gènes qui assurent la production d'une matrice osseuse normale. Et là, je vous partage ce qu'elle a écrit, quelque chose d'intéressant. Au fil du temps, j'ai compris que toutes les fractures que j'avais subies avaient pour origine structurelle l'expression protéique malsaine de mes cellules osseuses. Et ce, parce que je vivais en permanence dans un monde de survie, où des émotions telles que la peur, la victimisation ou la douleur prédominaient. Et en conséquence, je me sentais faible. Néanmoins, j'étais suffisamment forte pour faire en sorte que cette faiblesse se manifeste parfaitement dans mon corps. En effet, j'avais programmé mes gènes de manière qu'ils restent actifs, car j'avais subconsciemment mémorisé ces émotions dans mon corps. Et mon corps, en tant qu'esprit, vivait toujours dans le passé. J'ai fini par comprendre la chose suivante. Sachant que les os sont composés de collagène, qui est une protéine, si je voulais que mes cellules osseuses produisent un collagène sain, je devais entrer dans mon système nerveux autonome, transcender mon esprit analytique, entrer dans l'esprit subconscient, reprogrammer mon corps de façon répétitive en m'appuyant sur ses nouvelles informations et l'autoriser à recevoir chaque jour des directives différentes. Et lorsque j'ai appris cette bonne nouvelle, j'ai eu l'impression d'avoir franchi la moitié de la rivière du changement. Alors elle a continué à pratiquer la méditation, à assister au séminaire de Joe Dispenza et elle a continué à ressentir de douleurs passagères, mais l'intensité, la fréquence et la durée ont diminué considérablement. Et elle a commencé à changer un tas de choses dans sa vie. Elle changea de gymnastique, elle changea le lieu qu'elle fréquentait. Elle a commencé à prendre soin d'elle. Et elle essaie de se tenir différemment. Quand elle croisait ses bras, elle essaie de croiser ses bras dans l'autre sens. Elle essaie de changer en fait toutes ses habitudes pour forcer son esprit à être souple et à ne pas rester dans le passé. Elle s'asseyait sur des chaises différentes dans son appartement. Elle a pris l'habitude de dormir sur l'autre côté de son lit, etc., etc. Et elle disait, cela peut sembler ridicule, mais j'avais la ferme intention de donner à mon corps autant de signaux nouveaux et différents que possible, et comme la perspective d'un déménagement dans une luxueuse maison de la région UP des Amstons n'était pas envisageable, je me suis dit que des petites choses me permettraient néanmoins d'aller de l'avant. Et elle plaçait également des notes dans son environnement immédiat pour se remémorer sans cesse qu'elle devait rester consciente, et aussi pour susciter des pensées, des émotions liées à son avenir. Elle écrivait par exemple des phrases comme « Je suis reconnaissante »,« Élève-toi » ou « Aime ». Et elle faisait des post-it en fait qu'elle mettait dans différents endroits, même dans sa voiture. Et parfois des inscriptions comme « Tes pensées sont incroyablement puissantes »,« Choisis-les avec la plus grande sagesse ». Et toutes ces notes qu'elle lisait l'encourageaient et commençaient finalement à modifier ses croyances. Et à la fin de 2013, lorsqu'elle retourna consulter son orthopédiste, il lui apprit pour la première fois en 28 ans qu'elle n'avait plus de fracture, pas la moindre fracture. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et ses os étaient solides et en parfaite santé. Alors voilà ce qu'elle écrivait au docteur Joe Dispenza quand elle a appris ça. Je ne peux traduire par des mots la joie que je ressens. Aujourd'hui, je me sens plus légère et en total contrôle de ma destinée. Je sais que j'ai traversé plus de la moitié de la rivière du changement. Ces cellules osseuses étaient maintenant programmées à fabriquer des protéines saines et entièrement nouvelles. Vous imaginez le changement, hein, c'est extraordinaire. Et évidemment, au point de vue médical, ça c'est considéré comme impossible. Son système nerveux autonome a restauré l'équilibre chimique, physique et émotionnel à l'intérieur de son corps. Et elle pouvait de plus en plus faire confiance à cette intelligence supérieure auquel elle s'abandonnait, à cette puissance de guérison. Et que son corps a commencé à répondre et à agir en fonction de ce nouvel état d'esprit. Elle a continué à suivre d'autres ateliers de Joe Dispenza et elle a reçu, à un moment donné, c'est important de le signaler, pendant un séminaire, elle a reçu un appel de l'assistante de son médecin qui l'informa que ses analyses de sang et d'urine, qu'elle venait toujours de recevoir, impliquaient que sa maladie était toujours active. Alors vous imaginez que quand elle a appris ça, elle a eu le cœur brisé et les radioscopies lui avaient donné le sentiment qu'elle était rétablie, mais les examens de laboratoire prouvaient le contraire. Et donc, en quelques secondes, elle a perdu toute perspective et elle fut convaincue qu'elle avait échoué. Et lorsqu'elle a partagé cette nouvelle avec le docteur Joe Dispenza, le docteur Joe Dispenza lui a expliqué que son corps vivait encore dans le passé et qu'il faudrait un temps d'adaptation supplémentaire pour qu'elle puisse s'ajouter à son nouvel esprit. Donc, il lui a suggéré de poursuivre ses efforts encore pendant quelques mois avant de repasser ses examens médicaux. Et comme elle était inspirée par d'autres participants, avec l'énergie du groupe, et par la relecture de tout ce qu'elle avait appris, de tout ce qu'elle avait noté, elle a continué avec plus de ferveur à pratiquer ses exercices de méditation, en ressentant et en se représentant le plus clairement possible la vie qu'elle pourrait avoir. Donc elle a arrêté de s'imaginer avec des os entièrement guéris, et elle s'imaginait plutôt dans son entièreté, jeune, lumineuse, résiliente, énergique, pleine de vitalité et en parfaite santé. Elle a pratiqué cette répétition mentale de son nouvel avenir plusieurs fois par jour, en incluant évidemment son corps, un corps fonctionnel et capable de marcher. Et elle se convaincue que la vieille dame qu'elle avait été de 19 ans à 47 ans, parce qu'elle avait 47 ans à ce moment-là, était une histoire du passé. Et pendant ces mois, elle a commencé à sentir plus heureuse, plus joyeuse, plus libre, en meilleure santé. Elle commence à devenir plus lucide par rapport à son avenir. Elle ressentait de moins en moins de douleurs corporelles et elle pouvait se déplacer sans assistance. Alors en mai 2013, elle devait suivre de nouveaux examens médicaux. Elle était quand même un petit peu inquiète. Et donc, elle a reporté son rendez-vous au mois de juin. Et puis, elle avait quand même de l'appréhension. Et elle en a partagé avec d'autres membres du groupe, des gens qui suivaient aussi ces genres d'ateliers. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, elle pouvait compter sur pas mal de personnes. Elle s'est rendue compte de la gentillesse, elle s'est rendue compte de tous ces points positifs. Elle a commencé vraiment, même en allant à l'hôpital, à noter tout ce qui pouvait être positif, la propreté de l'hôpital, la gentillesse des personnes, le dévouement du personnel soignant, la facilité de s'y rendre, les soins. Et donc, en fait, quand elle allait à l'hôpital, elle était pleine de gratitude pour le soleil, pour la circulation routière, qui était fluide, pour sa voiture, pour le fait d'avoir une place de parking, enfin, vous voyez, des petits détails. Et elle dit plus tard, je suis entré dans l'hôpital, j'ai donné mon nom, j'ai fermé les yeux, j'ai médité dans la salle d'attente jusqu'à ce que ce soit mon tour. Et j'ai uriné dans un contenant, j'ai remis le sac à l'infirmière, je suis parti en remerciant le ciel pour le simple fait de pouvoir marcher. Et j'ai complètement oublié le résultat final de ces examens médicaux. Donc là, vous voyez, c'est important, c'est vraiment un lâcher prise total sur le résultat. C'est simplement se concentrer sur le chemin et sur la beauté du chemin. Et elle s'est sentie, elle, totalement en paix, sans aucune attente. Elle a complètement oublié le résultat, ce qui montre qu'elle n'attendait plus rien. Elle se sentait simplement heureuse dans l'instant présent, reconnaissante, avec de la gratitude. Elle faisait confiance à la vie. Elle se rappelait ce que le docteur Joe Dispenza lui avait dit. Dès l'instant où elle commencerait à analyser comment et quand sa guérison se produirait, ça signifierait qu'elle serait en train de retourner à son ancien soi, car son nouveau soi ne penserait jamais d'une manière aussi hésitante et incertaine. Et Laurie disait plus tard, et ainsi, sans raison particulière, j'étais tout simplement reconnaissante dans le moment présent, tout en anticipant réellement cette expérience. Je n'avais pas besoin de connaître le résultat de mes examens médicaux pour me sentir heureuse ou reconnaissante. J'étais dans un état de gratitude authentique et j'étais amoureuse de la vie, comme si cette expérience était déjà produite. Je n'avais plus besoin de quelque chose à l'extérieur de moi pour être heureuse. J'étais déjà heureuse et entière parce que quelque chose en moi était plus complet et plus entier. Elle se sentait également beaucoup plus heureuse avec elle-même, elle s'aimait plus. Et 2 semaines plus tard, elle a reçu le résultat des examens. Et l'assistante médicale a déclaré à Laurie ceci. Vos résultats sont parfaitement normaux. Vous avez obtenu une valeur de 40, ce qui constitue une amélioration considérable par rapport au taux anormalement élevé de 68 qui était le vôtre 5 mois auparavant. Et voilà que, vous voyez, Laurie a réussi à traverser la rivière du changement et à atteindre les berges d'une vie nouvelle. Il ne restait plus rien dans son corps comme preuve de son passé, de son ancien soi. Elle était maintenant libre, elle naissait de nouveau. Et voici ce qu'elle a dit. Ensuite, pour terminer, en un instant, j'ai compris que mon identité de patiente et de personne souffrant d'une maladie était devenue plus forte que tous les autres rôles que j'avais joués dans ma vie. J'avais prétendu être cette personne, mais j'avais toujours su que ce n'était pas le cas. Toute mon attention et toute mon énergie ont été investies dans le fait d'être une patiente et non pas une femme, une petite amie, une fille, une employée ou même une personne heureuse et entière. Je sais maintenant que je n'avais plus d'énergie disponible pour être quelqu'un d'autre. Et ce, jusqu'à ce que je détourne mon attention de mon ancienne personnalité et de mon ancien moi pour réinvestir toute énergie et cette attention dans un nouveau soi. Je suis sûr reconnaissant d'être devenu ce que je suis aujourd'hui. Donc on le voit ici, une transformation incroyable. Vous avez Laurie qui a vraiment changé complètement sur le plan biologique, sur le plan cellulaire, sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, qui est une preuve vivante en fait qu'on peut guérir d'une maladie grave. Et elle le dit elle-même, j'en suis la première surprise. C'est ça, vous voyez, la clé, c'est qu'en fait, au début, on le fait, mais on garde en soi cette croyance que ce n'est pas possible. On continue. On commence à sentir quelque chose. Elle a mis 2 ans pour commencer à sentir quelque chose. Elle a eu encore d'autres obstacles après, vous avez lu, vous avez entendu. Mais elle a continué. Et c'est ça, ce discipline de continuer d'y croire et commencer à avoir des changements qui vont nous renforcer, nous donner du courage, nous surprendre et de continuer de plus belle. Et ne pas être étonné d'avoir encore d'autres problèmes. Elle avait l'inondation dans son appartement, puis la mauvaise nouvelle que sa maladie était encore là malgré les radios, et elle a continué malgré tout. Et c'est ce succès, en fait, cette discipline de continuer à vouloir être quelqu'un d'autre, et finalement de s'en foutre, de ne plus vouloir être comme ça, quoi qu'il arrive, de garder ce nouvel état d'esprit de gratitude qui est la clé du succès. Dans la prochaine vidéo, je vous partagerai un autre cas très intéressant aussi très très impressionnant, c'est le cas de Candice.